Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Donc, après 4 mois d'absence, voici la 118e émission de La Voix Persane autour de cette table. Il n'y a que Marie-Claude. Bonsoir. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Nous attendons Reza, éventuellement Monique, j'aimerais bien qu'il soit là. Donc, aujourd'hui, on aura le plaisir de vous parler de Khayyam, l'un des plus grands poètes, sinon le plus grand poète et mathématicien et astronome de l'Iran. Donc, on fait une introduction musicale. C'est une musique classique iranienne qui a été faite sur un roba'i de Khayyam. Donc, la poésie est de Khayyam, donc c'est le sujet de ce jour.
Thank you.
زندن پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
Alors, on est très heureux de voir Reza parmi nous.
Oui, bonsoir Reza.
Bonsoir à tous et bonjour.
Bonjour. Donc, alors, pour commencer l'émission, on ne sait pas grand-chose sur la vie de Khayyam. Jean-Yves Lacroix a écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait Le Cure-Dent. Donc, ce n'est pas une biographie de Khayyam. Il a pris pratiquement tous les quatrains. Et à partir de ces quatrains, il a construit, en quelque sorte, la vie du poète. Sauf que, par exemple, il avait dit que Khayyam fréquentait les tavernes, où il était ivrogne. Mais on ne le sait pas, parce qu'on sait vraiment, peu de choses sur lui. On sait, par exemple, par son nom, qu'il était le fils d'un fabricant de tentes, ou le mot Khayyam. Il est né, ça c'est sûr, à Nishabur, ville qui est située au nord-est de l'Iran, vraisemblablement en 1038, si l'on admet, parce que les chercheurs iraniens ont dit qu'il avait environ 85 ans lorsqu'il est mort. Donc il est mort dans cette ville vers 1123, donc il a vécu au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle. Alors, pour vous parler un peu de son époque, en ce XIe siècle, la Perse était troublée par les luttes religieuses. Déjà, je dirais.
Déjà.
C'était le temps des assassins, dirigés par Hassan al-Sabbah, dont Jason nous avait parlé il y a quelque temps. Il nous avait expliqué pourquoi on les appelait les assassins.
Injustement.
Qui était Hassan al-Sabbah. D'ailleurs, si
c'est pas l'appellation.
Si tu peux faire un petit rappel historique des faits.
En fait, c'est un mouvement qui, pour la première fois, ils ont introduit l'exégète de Coran au sens d'interprétation qu'on entend aujourd'hui. Il disait qu'en gros, le Coran n'a pas, il faut pas le prendre à la lettre. Tout ce qui est écrit est là, il faut l'interpréter. Donc, eux, ils l'interprétaient de manière, de leur propre manière, c'est-à-dire il est synchronisé avec la tradition persane et les enseignements de zoroastrisme. Donc, très vite, ils ont pris une grande ampleur et il y a donc et pouvoir économique et pouvoir théologique aussi. Donc, une menace très, très grave pour l'époque des Turcs qui régnaient, des Turcs musulmans très, très, vraiment intégristes au sens qu'on entend aujourd'hui. Donc ils ont, pour les disqualifier, voilà la première chose qu'ils ont fait, les califes de Bagdad, pour les disqualifier, pour, ils ont dit qu'ils se sont des hachachouines, c'est-à-dire qu'ils vendent des hachiches et vendent des drogues. Et c'est
des
ce
consommateurs
mot,
et des vendeurs de hachiches.
Et alors, ce mot-là a été, par la prononciation hachiche, hachach, assas et assassine, eh bien, a été déformé à son tour. Mm. C'est-à-dire qu'un calomnie qui a été déformé en prononciation, et ensuite qui a été retourné, qui a été devenu une vérité jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, c'était une pour jeter discrétise sur eux, qui ensuite pour le mieux les détruire et exterminer.
Alors donc ce 11e siècle, en parlant de Hassan Sabah, c'est aussi la période où l'Avicenne, illustre médecin philosophe, exerçait son métier à Ispahan. Et il y a encore un autre disciple de Khayyam, Hassan Toussi, devenu sous le titre fameux de Nizam al-Mulk, qui est devenu premier ministre du sultan Jalal ed-Din Malik Shah, d'origine turque, de la dynastie Seljougide, comme disait tout à l'heure Reza, qui devait faire la fortune de Khayyam, le roi, donc, en lui assurant une pension et en le chargeant plus tard de la réforme du calendrier, dont je vous parlerai tout à l'heure, puis de la création d'un observatoire. Donc, Khayyam, non seulement il était poète,
philosophe,
il était mathématicien et astronome aussi. Oui. Car on dit, si pour nous, Omar Khayyam reste l'auteur de Rubaï ou des Quatrains, ces Quatrains n'étaient pour lui qu'un divertissement de ses contemporains. Et le contemporain le tenait d'abord pour un savant. Sa dissertation sur les démonstrations des problèmes de l'algèbre, ce qui me dépasse, personnellement, est un traité scientifique remarquable qui a été même traduit en français en 1851. Khayyam était un homme pour moi qui regardait le ciel en face. Il aimait les astres et les mouvements. Il aimait à calculer leur apparition, leur influence, leur éclipse. Donc, c'était, on l'a déjà dit, un astronome et un mathématicien. Mais pas seulement. Nous avons Khayyam, philosophe, et Khayyam, poète.
Et je peux ajouter un libre penseur.
Tout à fait. J'allais le dire, Reza, tu me voles un petit peu mes mots. Parce que bon, c'était quand même quelqu'un qui haïssait un petit peu l'esclavage de la pensée, hein, qui avait quand même une très libre parole. Et il semblerait justement que ces quatrains sont aussi devenus très célèbres, même par la suite, parce que c'était un magnifique chant qui s'est levé contre l'imposture religieuse et politique. Et il semblerait aussi, d'après ce qui est dit, et je le crois volontiers, puisque vous savez que j'ai une grande admiration pour Khayyam, que je considère comme un homme plutôt génial. Hein. Il y en a qui l'ont comparé même à Léonard de Vinci. Mmh. Donc, qu'il semblerait qu'il a été protégé, justement, par ce que Fariva vient de dire, à savoir tout son côté de savant, scientifique, et que ça l'a protégé un petit peu par rapport aux religieux de cette insolence qu'il pouvait avoir dans ses propos et dans ses écrits.
Mmh, tout à fait.
Hein, voilà.
Je vais ajouter juste un petit mot aussi. Ce génie, comme disait Ernest Renan en 1868, c'est vraiment génie au sens propre, hein, de ce mot, a été vraiment mal compris et mal connu, malgré ça, en Occident. On le résume en deux adorateurs de vin ou quelqu'un, voilà. Alors que c'est pas ça, c'est un philosophe, un libre penseur au sens qu'on l'entend, comme je disais tout à l'heure maintenant, c'est qu'il risquait vraiment sa vie. Il faut savoir qu'à l'époque de règne des Turcs, des souverains turcs du calife abbasside en Iran, en Perse, ancien Perse, on ne pouvait pas dire un mot sans être inquiété de sa vie. Et il faut savoir que ces souverains, ils étaient en même temps califes islamiques. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir théologique au sens de décréter une sentence de mort et de vie, eux-mêmes. Donc le pouvoir césaropapisme, comme on dit, eh bien, il y était depuis le Xe siècle. Quoi. Donc Khayyam, au sens vraiment, il faudrait vraiment consacrer études complets sur ces cadrans, par exemple, et dégagent des pensées philosophiques de Khayyam à travers de ça.
Si voilà, vous permettez, je vais vous lire un passage de ce que je considère le philosophe. Hein. Par exemple, un homme qui dit « Quand l'arbre de ma vie, écroulé dans l'abîme, sera rongé, pourri, du pied jusqu'à la cime, l'or, si de ma poussière on fait jamais un pot, qu'on l'emplisse de vin afin qu'il me ranime. » Alors vous voyez que l'histoire du vin est liée, certes, mais vous voyez sur quelle pensée, quelle profondeur de pensée et quel sens un petit peu du vertige de la recherche du sens de la vie. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas se contenter d'un Khayyam qui a parlé du vin. Et on peut penser aussi qu'en tant que libre penseur, un petit peu contre justement les religieux bien pensants qui voulaient imposer un système, qui voulaient imposer des interdits, s'il a autant glorifié le vin, c'est peut-être moins parce qu'il en a bu, même s'il en a bu, que pour tenir tête aux religieux. Et d'ailleurs, je crois que les soufis, par moments, lui ont bien rendu leur animosité.
Mais pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Marie-Claude et Zot tout à l'heure, c'est sûrement son côté savant qui l'a protégé de bûcher des religieux. Et comme disait Zot, Il y a des gens qui ont vécu des périodes très difficiles. Il y a Halloj qui a été tué, il y a Sohrawardi qui a été tué. Bon, si on prend par exemple les soufis, comme tu as dit Marie-Claude, sont les gens qui sont allés au contre-pouvoir de la religion établie, mais certains ont laissé leur peau. Et certains ont été protégés par leur côté un peu savant. C'est un peu, par exemple, si c'est peut-être une comparaison un peu naïve de ma part. Certains cinéastes iraniens qui sont contre le régime actuel ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont un poids international.
Tout à fait. Ça, je suis d'accord.
Ça, c'est un petit rapprochement.
On peut faire ce rapprochement-là, je pense. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que cet homme, enfin, moi, j'avoue que même si on ne sait pas trop grand-chose de lui, je pense que ce qui a évidemment primé, c'est tout ce qu'il a apporté au niveau justement science, et peut-être tu nous développeras un peu. Et puis, c'était un surdoué, quoi. C'était quelqu'un qui se jouait avec des mots, qui vraiment, je pense, forçait un peu le respect. Et puis, c'est vrai qu'il a eu cette protection pendant un certain nombre d'années de du vizir. Nizam al-Mulk.
Nizam al-Mulk.
Voilà, qu'il a quand même bien protégé, jusqu'à ce que malheureusement le vizir meure, le sultan aussi, et là, pour lui, ça a été un peu moins facile.
Je ne sais pas si vraiment le fait de connaître la vie de quelqu'un est important.
Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui est important, c'est tout ce qu'il a laissé.
C'est la pensée.
Voilà, c'est toute sa pensée.
Alors, les chercheurs iraniens disent qu'il a vécu 85 ans. Oui. Bon, qu'il a vécu 85 ans. On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie. Moi, personnellement, je ne sais même pas s'il avait une famille, ni une femme, ou ni des enfants. Mais peu importe, comme dit Marie-Claude, il a laissé quand même quelque chose. La chose la plus importante... Disons, si on prend le côté scientifique des choses, c'est la réforme du calendrier. Ouais. Et après, on passe côté, moi je dirais pas de la littérature, c'est pas de la littérature au sens noble du terme, c'est très très beau. Il y a quand même le rythme, il y a la rime, il y a la versification des Roubaïs, mais il y a plus la pensée qui se
tout
dégage, qui est, plus, qui est important de mon point de vue à moi.
Mais tu sais, il paraît qu'il a écrit aussi des ouvrages d'algèbre, alors comme moi je ne suis pas du tout matheuse, d'arithmétique, et que même, et ça je sais parce qu'il a des écrits là-dessus, il s'est aussi passionné pour la musique. C'est pour dire que c'était quand même une personnalité d'une richesse et qui avait une capacité de s'intéresser à tous ces aspects culturels et scientifiques à la fois, quoi. C'est pour ça que la comparaison avec Léonard de Vinci n'est pas du tout, à mon avis, elle est juste, quoi. Hein, c'était quand même, ce sont des esprits quand même supérieurs. Hein.
C'est vraiment incroyable. À l'époque où il y a l'obscurantisme régnait vraiment, une règne absolue d'obscurantisme, quelqu'un qui va renier le pouvoir suprême, une puissance suprême, qui va renier la légitimité et les pouvoirs en place, c'est-à-dire les califes, mm-hmm. les califes abbassis, le fondement du Coran. Et en même temps, il faut savoir qu'il a fait des recherches énormes. Il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de machine à calculer, rien du tout, qui fait des traités d'algèbre, des traités mathématiques. Et astronomie, et c'est pas son cas, et son copain qu'on l'appelle assassin vraiment injustement par exemple, Hassan al-Sabbah, à son tour par exemple, on la résume comme un assassin, alors que lui c'est un grand philosophe, ses traités existent aujourd'hui, et je crois que c'est Christian Jambé qui a écrit un très bon ouvrage sur lui. Il y en a pas mal, et par exemple lui à son tour était un mathématicien aussi, un fin stratège et philosophe et théologien. Et seulement, on ne le regarde pas de ces aspects-là. Il y a vraiment deux génies qui ont vraiment risqué leur vie avec un langage codé qui n'était pas accessible pour tout le monde. Pour tout le monde, était accessible. Tout le monde en prenait des plaisirs. Les gens ordinaires, ils prenaient des plaisirs parce qu'ils voyaient des choses superbes. Et les gens qui lisaient, qui arrivaient à lire entre les lignes, eux aussi, ils prenaient le plaisir. Ces deux personnages sont, à mon sens, c'est... Et comme disait un autre philosophe qui a été martyrisé par la République islamique, qui s'appelle Tabari, moi je le dis de Tabari, Tabari cite que c'est deux génies qui ont risqué leur vie d'utilisation de langage de poésie pour renier de A à Z tous les pouvoirs islamiques. Et ça, quand ? Pas aujourd'hui. C'est, il faut le faire. Vraiment, il faut se mettre dans le contexte historique pour voir ce que eux, ils disaient, qu'aujourd'hui, nous dépasse. Même aujourd'hui, il y en a qui n'osent même pas le dire. Voilà.
Alors, qui étaient ces deux
Merci de me rappeler. j'ai toujours...
On était là, on attendait.
C'est Khayyam et Hafez.
Hafez,
par exemple.
Oui.
Vraiment, quand on lit Hafez, il se moque, vraiment, il se moque de tous les pouvoirs des mollahs, pouvoir des théologiques islamiques. Tout.
Mais en fait, c'était beaucoup plus un soufi que Khayyam.
Hafez, oui.
Soufi, je ne pense pas. Et justement, il se moquait des soufis aussi dans ses poésies qui disaient, finalement, je suis allé... dans une poésie qui dit je suis allé chez les mollahs, j'ai vu des hypocrisies chez les sophies pareil, et finalement je suis allé dans un bar, enfin bar je le traduis maintenant, je suis allé dans un taverne pour voilà, et là-bas j'ai vu tout le monde, ils sont tous ivres morts mais sincères. Voilà, la sincérité, il les voit dans un taverne. Voilà, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi.
Mais on parlera de Hafez dans une autre émission.
Oui, parce qu'il y a de quoi raconter. Moi, je voulais simplement vous dire, justement, cet homme-là, comme il était insolent, quelques vers aussi qu'il a écrits, où il interpelle, moi, je pense que c'est Dieu, hein, je ne sais pas. Il dit « Quel homme n'a jamais transgressé ta loi ?» dit. « Une vie sans péché ? Quel goût a-t-elle ? » dit. « Si tu punis le mal que j'ai fait par le mal ?» Quelle est la différence entre toi et moi ? Dis, voilà. Et je trouve que quand même, c'est être drôlement culotté.
Si
que
tu veux bien, Farivar, peut-être c'est à la suite de cet cadran, c'est à la suite d'une anecdote ou d'une histoire qui a été faite. Je ne sais pas si tu peux le dire. Bon, vas-y, si tu peux dire un mot là-dessus, tu te souviens ?
Moi, je voulais parler autre chose, mais je reviendrai sur ça.
Je vais ajouter juste un mot là-dessus pour la suite, parce qu'un jour, il avait bu et il y a quelqu'un qui passe, un hypocrite, un religieux, un musulman, il me dit « Ah, ben, t'as bu, là, mais et là, tu... Attention, t'as bu ça, et ben si tu dis un mot, ton visage va devenir... va perdre la couleur, tu vas devenir noir. » Alors, il insulte. Il a dit « Dieu, tout ça, je m'en fous », il commence à insulter. Et, soi-disant, son visage devient noir. Et c'est là, à la suite, il dit « C'est moi qui bois, c'est moi qui dis des bêtises, et bien apparemment, c'est toi qui es sous.
» C'est toi
alors,
qui es noir.
Voilà, qui est noir. Alors tu me fais ça, alors moi je suis sous, mais toi tu n'es pas sous, et pourquoi tu me fais ça ? Voilà, c'est à la suite de ça.
D'accord.
Alors... je voulais ouvrir une petite parenthèse et demander à Reza, d'après la légende, quand on était en Iran à l'école, dans les livres scolaires, on disait qu'il y avait les trois camarades d'école, à savoir Hassan al-Sabbah, Khayyam et les Nizam al-Mulk. Et il nous disait, bah, vous savez, les livres d'histoire nous disent ce que leur auteur et les gouvernements veulent nous dire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je te pose la question. Mmh. Hassan al-Sabbah a donné l'ordre à ses disciples de tuer le Roj Nizam al-Mulk.
Oui, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le premier avertissement. Ah, ouais. Et c'est vrai. Et parce que, bon, il était très gentil. Parce qu'il faut savoir que Nizam al-Mulk a entrepris une persécution vraiment extrêmement sévère. Il a planifié l'extermination des Ismaélites, lui.
Mmh. Ah, d'accord.
Et ils ont été vraiment péris, carrément, la moitié a été exterminée par Nizam al-Mulk. Hassan al-Sabbah, pour la première fois, il lui donne un avertissement. L'avertissement au sens que, qu'il arrive, le matin, il se lève, effrayé, à côté de son lit, il voit une poignarde, planté à côté de son lit et un mot dessus. Il est effrayé, il enlève le poignard, il regarde, c'est marqué « Écoute, Nizam al-Mulk, arrête de la persécution des Ismaélites. » Donc, ce poignard aurait bien été enfoncé dans ton cœur. Là, c'était un avertissement. On peut le comparer avec le massacre des Cathares aussi, exactement comme des Cathares. Mm-hmm. Voilà, persécution des Cathares. Mm. Et il n'a pas écouté, ben il n'a pas voulu. Ben il y en a un qui arrive finalement, deuxième, c'était bon, on l'assassine. Il faut savoir que c'est l'assassinat de Nizam al-Mulk, ça ne se termine pas à Nizam al-Mulk. Ça va finir par son fils aussi. Parce que le fils de Nizam al-Mulk va remplacer son père, il va prendre la même attitude, il va massacrer tous ces pauvres Ismaélites, lui aussi va finir comme son père.
On s'éloigne du sujet, mais pour te dire, je vais te donner la version officielle du livre d'histoire de l'école quand on était
petit. En Iran.
Alors, ils nous ont fait croire que ces trois copains d'école se sont dit, voilà, s'il y a un de nous qui devient quelqu'un d'important, ministre ou premier ministre ou quelqu'un qui fait partie du gouvernement, s'occupera des deux autres et qu'il leur donnera des postes. Alors, Roj Nizam al-Mulk, qui devient ministre de Malek Shah, oublie un peu ses deux camarades. Alors, ils nous ont fait croire que c'est Khayyam qui a demandé à Hassan al-Sabbah d'aller tuer parce qu'il n'avait pas tenu parole. Ça, c'est la version.
Alors,
bon, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du sujet.
Pas vraiment,
ça, c'est pas mal, ça.
Pas vraiment, mais pas vraiment, parce que c'était quand même... Il avait une pension, enfin, il avait pas à se préoccuper de comment gagner sa vie. Et quand, al-Mulk a été tué, bon, forcément, pour lui, tout a changé. En plus, le sultan est mort après. Donc, moi, alors, j'avais lu un peu la même version, effectivement, mais pas du tout avec l'histoire que c'était Khayyam qui l'avait demandé. Et j'avais lu la version du pacte qu'ils avaient signé tous les trois dans Samarcande, parce que si les gens s'intéressent à l'Iran, à la Perse et à Khayyam, si ça leur donne envie, il faut qu'ils lisent entre autres Samarcande d'Amin Mahalouf. On le trouve en livre de poche et c'est un livre qui retrace assez, d'une façon très agréable et très riche, très documentée, la vie de Khayyam dans la Perse de l'époque.
Oui.
Voilà, romancé, c'est romancé, mais c'est bien écrit.
Très
et justement,
bien.
Ce pacte, je l'avais lu.
Tout à fait, exact. Et il faut savoir qu'ils se sont jamais... Bon, moi, mes propres recherches, mais ils se sont jamais rencontrés. Hein. Nizam al-Mulk, Khayyam, pratiquement, ils ne se connaissaient pas. Ils se sont pas...
Ah oui.
Oui. Ça, c'est son qui ont été. Parce que, à mon avis, avec une pierre, ils chassent deux oiseaux. Un, ils disqualifient les deux. Khayyam, qui était gêné pour. C'est simple, Khayyam et Hassan al-Sabbah, tous les deux, ils étaient gênants pour le pouvoir en place, que ce soit pouvoir théologique ou pouvoir politique. Alors, comme à l'époque du Shah d'Iran, pareil, c'était un césaropapisme, et le Shah d'Iran, il ne se prenait pas aussi pour l'imam aussi. Hein. Il faut savoir que l'aspect, le Shah d'Iran, on le connaît comme et juste sur un seul angle qu'on a vu, qui lui, en tant qu'un dictateur, mais en même temps, lui, il se prenait pour envoyer de Dieu aussi. Mm-hmm. Pour, sur ça, un jour, on viendra là-dessus. Et voilà, donc, comme ça, ils vont disqualifier les deux, alors que normalement, que lui...
D'accord. Si vous voulez, on fait une petite pause musicale.
Avant de finir, je peux lire juste...
Absolument, absolument.
Voilà. Bon, ben, écoutez, je vais vous offrir ça. Cette voûte vaste, infinie, universelle, offre à l'humanité une seule coupe à boire. Lorsque ton tour viendra, retiens tes larmes, sois gai, lève haut la coupe et vide-la. Jusqu'à la lit.
Très bien. Oui, donc on reprend un petit peu après cette très belle musique. Je sais pas, moi j'avais envie de lire encore quelques vers là où on voit aussi la profondeur de la pensée de Khayyam et son interrogation par rapport à la vie. Il dit par exemple « Amuse-toi, d'avance on régla ton destin, en marquant par tes vœux un mépris souverain. Vis donc joyeux, hier, sans que tu le demandes, on a déjà fixé tes actes de demain. » Alors là, il y a un fatalisme qui est un petit peu... c'est pour montrer aussi la complexité de sa personnalité. Mmh. Hein, où il y a là, alors que c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui quand même résiste justement à certains oppresseurs et à un système de pensée qu'on voudrait imposer, notamment religieuse, on voit bien là aussi toute l'interrogation par rapport au sens de la vie et savoir si on a un déterminisme, une liberté. Lui qui, en plus, prône pour la liberté de penser, mais en même temps, on voit bien combien là, il s'interroge aussi sur cette possibilité qui est aussi une espèce de fatalité. Oui,
tout à fait. C'est-à-dire que moi je pense avec en parallèle ou simultanément quand ses pensées scientifiques l'a mené héritier d'un grand une grande civilisation et grande mode de pensée, des Perses. Mm. Dans toutes les histoires de Perses jusqu'à aujourd'hui, on voit les gens qui sont des iconoclastes, il n'en manque pas. Mm-hmm. Et lui, simultanément avec ses recherches sur la science mathématique, physique, chimie et tout, automatiquement, il ne peut pas rester à l'écart de pensée de notre question existentielle.
Tout à fait.
Et comme il ne pouvait pas s'exprimer ouvertement, donc il a passé sous le langage codé qu'on le connaît aujourd'hui sur les cadrans d'Omar Khayyam. Mmh. Mmh. Et ces cadrans, faut savoir que ils ont été pas mal qui ont été détruits. Mmh. Et la pensée philosophique de Omar Khayyam a été aussi brûlée. Bon, il reste quelques fragments et quelques petits livres, je n'ai pas malheureusement en mémoire aujourd'hui, qu'il reste et qui montre sa pensée. Et voilà pourquoi je dis qu'il est libre penseur. Lui, libre penseur au sens qu'il est. Il ne considère pas une hiérarchie de pensée, hiérarchie de quelconque religion, voilà. Mmh. Quelconque supériorité, suprématie des êtres par rapport à l'autre. Mmh. Voilà, domination de l'un, domination de quelconque pouvoir, qu'il soit pouvoir voilà, divine ou pouvoir terrestre. Mmh. Voilà, l'homme ou divin.
Au divin, oui. Donc il est un homme, point, avec toute sa complexité. Mmh. Est-ce que c'est vrai qu'il était astronome aussi ?
Oui, tout à fait.
C'est de l'astronomie, c'est ça. Il n'a pas découvert des choses aussi au niveau astronomique ?
Alors là, Farivar, peut-être il nous en parlera sur le calendrier persan et ses études sur des astres. Oui. Et il faut savoir qu'on avait une observation à John Dishapour et Maroré,
ouais,
et qui est dans l'Azerbaïdjan d'Iran aujourd'hui et qu'on a étudié systématiquement. Mm. Et il faut savoir aussi que bon, cette science aussi qui a été avec les Grecs aussi. Mm-hmm. Il faut savoir
oui,
que,
tout à fait. Ouais.
On peut le dire avec les Grecs, c'était un souvenir des Grecs aussi. Mm-hmm. C'est... À l'époque, il suffisait de traverser une rivière pour arriver en Grèce, à Athènes. Et ces va-et-vient entre la civilisation perse et la civilisation grecque, c'était quelque chose de très, très naturel. Seulement, on ne le voit pas, ce n'est pas très développé en Occident, les rapports et interactions entre les Perses et les Grecs et les Romains. Et voilà, par exemple, cette... observation d'étoiles qui a été construite, ça, cette forme plus développée, ça, je peux le dire, on le doit aux Grecs et les Romains. Mm-hmm. Aussi.
Oui.
Et n'oublions pas qu'on est au 11e siècle.
Oui.
et qu'on est dans un pays musulman.
Musulman, oui, oui.
À dominance turque.
Tout à fait, il y a la domination turque à ce moment-là.
Donc, il
ne
faut
oui,
pas
oui.
oublier ça. Ouais. Tout à l'heure, tu voulais comparer Khayyam à Léonard da Vinci. Da Vinci était au 15e siècle,
oui,
si je ne me trompe pas. Khayyam, 11e, donc 4 siècles antérieurs, avant. Donc... C'est une belle comparaison quand même. Hein.
Oui, oui, oui.
Et juste un mot, parce qu'on parle de Da Vinci, on va parler, il convient de parler de Abu Reyhan Biruni, qui au IIe siècle a calculé la tour du monde avec 200 mètres d'erreur. Ça, c'est important.
Donc la science n'appartenait pas aux Grecs.
Voilà.
Pas seulement.
Pas seulement. Voilà. Et puis, comme disait tout à l'heure Géza, pas d'ordinateur, tout ça. Et c'est vrai que ce qui est assez fascinant, c'est aussi la largeur du champ d'intérêt et de compétences, quoi. Parce qu'on part de la poésie, qui semble quand même quelque chose de plutôt plus léger, même si on sait bien que la poésie, c'est pas léger. On passe à les mathématiques, l'astronomie, on passe par la philosophie, on passe par la méditation religieuse. Enfin, vraiment, ce sont vraiment des intelligences très complètes.
Des savants multifonctions, c'est un néologisme,
oui.
N'étaient pas très, très nombreux en Iran. Il y a Abu Reyhan Biruni qui a fait des études dans divers domaines. Il y avait Khayyam, il y a surtout Avicenne, Ibn Sina, qui était non seulement médecin, mais astronome, homme de loi et tout. Ça sont des encyclopédistes qui avaient des compétences dans plusieurs domaines tout à fait différents et parfois contradictoires.
J'ajoute que c'est une tradition dans le passé, qu'il soit en Perse ou en Occident. En Occident aussi, la plupart des savants, ils étaient encyclopédistes. C'est-à-dire, c'est pas tout comme aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de spécialistes et spécialistes.
Absolument.
Et spécialistes. Et ils sont tellement spécialistes qu'ils sont finalement spécialistes de rien. Hein. Voilà, ils sont tout petits. Voilà, après, quand vous les amenez un tout petit peu loin de leur... Enfin, tirés vers le périmètre de leur connaissance, ils tombent nus, quoi. Ils sont capables de rien. Non, ils sont un peu pris dans leur propre piège. Je pense qu'ils sont, à mon avis, il faut revenir sur l'ancien mode pour avoir que tous on puisse avoir un peu d'accès. Et un historien, par exemple, il connaît rien. Il pourtant spécialiste, mais il connaît un tout petit temps entre 1945, par exemple, et 50. Voilà. au-delà, il peut pas aller loin. Il se permet même pas. Et donc, il aura le vertige. À l'époque, c'était pas comme ça. Quoi. Voilà.
Alors, on a dit que Khayyam a été chargé par le sultan de diriger l'observatoire de Jandishapur. Donc, il a réformé le calendrier qui était en usage. Alors, d'où vient le calendrier iranien ? Ça vient de la Perse antique. Alors, l'année était une année de 360 jours. Alors, dans ce système, comme on dit, le cabicès... où le déficit était accumulé dans chaque année et composé par l'adjonction périodique d'un 13e mois. Après, il y a eu un autre calendrier qui a été mis en place qui proposait une année de 365 jours avec toujours 12 mois et 30 jours chacun. Cependant, le 12e mois était suivi de 5 jours. Il restait 5 jours.
Il restait 5 jours.
Qu'on les appelait les Gata ou les Gor, d'après les anciens chants de l'Avesta. Peut-être que Reza approfondira un peu le sujet. Mais finalement, Khayyam propose un nouveau calendrier, toujours en usage en Iran. Donc, c'est le calendrier Jalali, du nom de Sultan Jalaluddin Malek Shah. Alors, comment est fait ce calendrier ? L'année solaire iranienne commence au moment où le soleil entre dans le point de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le premier jour du printemps. D'après les astronomes, l'année solaire persane a 300... C'est une année très exacte. 365 jours, 5 heures, 49 minutes, 5 secondes, 0 tierce et 48 quarts.
Ça, c'est extraordinaire.
D'une précision...
C'est extraordinaire.
Alors, les savants affirment également que cette année est la plus exacte et la plus régulière de toutes les années civiles parce qu'elle maintient les pointes de l'équinoxe et ceux de solstice chacun dans le même jour. Donc l'année iranienne, toujours d'après le calendrier proposé par Khayyam, le calendrier Jalali, l'année composée de 12 mois, les 6 premiers mois comptent 31 jours, les 5 suivants 30 jours, et le dernier mois 29 ou 30 jours selon les années normales ou bissextiles. Les années sont comptées à partir de l'Hégire, soit l'an 622 du calendrier julien, c'est-à-dire le calendrier iranien est basé sur le départ de Mohammed de Mecque à Médine, donc le début de l'ère islamique, sauf que les mois de l'année sont d'une régularité parfaite. Sauf que nous, la grande différence entre le calendrier, disons musulman pour ne pas dire arabe, et le calendrier iranien, c'est que le calendrier iranien s'est basé sur le mouvement du soleil, alors que le calendrier arabe est basé sur le mouvement de la lune.
Voilà, moi je voudrais faire une petite parenthèse, peut-être pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'Iran, pour dire que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les Iraniens continuent à fêter leur nouvel an, ce que vient de dire Farivar, pour Nowruz, le 21, alors que, et que ça ne correspond pas du tout à une fête, avec une fête musulmane, au calendrier musulman, et que ça perdure dans le temps, c'est magnifique, on l'a fêté récemment avec nos amis iraniens, et que ça perdure dans le temps, et que quand on va en Iran, ce que j'ai eu la chance de faire justement pour Nowruz, y a les mollahs qui patientent un peu, quoi. Ils, de temps en temps, ça dure 13 jours, alors de temps en temps, ils présentent un martyr dont il faut célébrer la mémoire et à ce moment-là, on ferme les bazars, enfin on essaye de faire qu'il n'y ait pas trop de fêtes. Ils disent aux gens qu'il ne faut pas trop en faire, mais ça, je crois que pour l'instant, les Iraniens, ils ne sont pas prêts d'abandonner leur Nowruz qui est quand même très ancien. Ils y tiennent beaucoup à leur calendrier et ils ne sont pas du tout sur le calendrier arabe, enfin musulman. Et ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi.
La grande différence, c'est la résistance du peuple iranien face à l'envahisseur, que ce soit l'envahisseur grec, que ce soit l'envahisseur musulman. L'Iranien a gardé ses fêtes païennes et sa langue.
Absolument. Donc et là on pense à Khayyam, justement, à cet esprit libre, quoi. Hein.
Absolument. Il y a un ouvrage qui est attribué à Khayyam qui s'appelle Nowruznameh, qui raconte un peu les cérémonies de Nowruz. Mm. Donc on ne sait pas si c'est vraiment de lui. C'est un ouvrage qui n'a pas été traduit en français, alors que les quatrains, on peut avoir des éditions multiples avec des miniatures, avec des images un peu symboliques. Alors, une petite précision sur les quatrains. Moi, je suis tombé sur une édition qui comportait plus de 500 quatrains. Alors que les chercheurs iraniens sont formels. Il y en a un qui était professeur de littérature à l'université de Téhéran, qui a affirmé que Khayyam n'avait écrit que 76 quatrains. Mmh. Et qu'après, tous les gens qui voulaient perdurer l'idée de Khayyam ont composé des quatrains sur le même modèle pour exprimer leur idée, alors que Khayyam, avec ses 76 quatrains, avait suffi largement à toute une philosophie, toute une pensée libre, comme vous venez de dire, à juste titre.
Et ça depuis le XIIe siècle, quand même.
Tout à fait.
Faut le dire aussi.
Alors j'aimerais bien que Reza nous fasse plaisir de lire un quatrain en persan.
Oui, en persan.
Bon, je vais vous choisir. J'ai essayé de le traduire, mais c'est très difficile.
C'est très difficile de traduire la poésie.
Voilà, mais je vais essayer.
Mais déjà, pardon, pour le plaisir d'entendre le rythme.
Oui, le rythme.
D'accord. Guyand kasan behesht bahur khoshast. Man miguyam که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. Je te laisse, Farivar, essaye. On va à deux.
Essaye de traduire, Farivar.
Tu as choisi un quatrain avec un proverbe populaire. Mm-hmm. Donc qui est un peu difficile à traduire. Bah du coup il dit moi j'aime bien le jus de raisin fermenté. c'est l'essentiel de, du quatrain. Voilà. Sauf que...
Guyand Kesan, voilà. Guyand Kesan Behesht Bahur Khoshast. On dit
que le paradis...
qu'au paradis, il y a des jolies femmes et jolies filles. Voilà, qu'on va, autrement dit, au paradis, on va faire l'amour librement.
Oui. Voilà. Ça, c'est bien.
Mais moi, je dis, lui dit, Man mi guyam ke obangur khoshast. Mais moi, je dis, ça veut dire lui, parce que on dit, ça veut dire le Dieu, de la part de Dieu, on vous promet de, le paradis avec les femmes. Mais moi, je dis que le jus de raisin est bon.
C'est très bon, d'ailleurs.
Très, très bon. Alors, pourquoi je dis ça? Il dit, Innar begiru dastazan nesie bedor. Il dit, prends ça, c'est cash. C'est, laisse tomber le crédit. La promesse, laisse tomber. Ça, c'est cash. Il est présent. Prends le présent. Laisse tomber la promesse. Parce que le
son de tambour,
ou le drum, les grands,
oui,
la grande caisse,
voilà, caisse. C'est bien l'entendre, mais de loin.
De près, ça, c'est le proverbe populaire.
Et alors un autre,
tout à l'heure,
ou maintenant,
non, vas-y.
Maintenant, okay. Maintenant. Alors un autre, il dit. در دایره‌ای کامدن و رفتن ماست آن را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست ایدی والا دان ست سخل کن لو واب پا ni le commencement, ni le début, ni la fin, qui a, où il a commencé, où il finit, personne ne peut pas le traduire, ne peut pas donner ce sens de ce cercle. C'est des cercles de la vie. De que, pourquoi, d'où nous venons et où nous allons. Donc nous sommes emprisonnés de ce cercle. Personne ne peut le dire. Ce cercle a commencé où et fini où et pourquoi. Voilà une pensée qui complètement rejette l'existence de Dieu. C'est vraiment un athéisme bien avant l'athéisme. C'est-à-dire, allez, laissez tomber. Et dans d'autres, il dit, moi je vous dis, prends ça, jeu de raisin, moi, laisse tomber. Et après, dans d'autres que je vous lirai tout à l'heure, il disait, ben, puisque vous dites... au paradis, on va vous donner du vin, du miel et du jolie femme. Alors, est-ce que moi je fais autre chose maintenant ici?
Je fais que ça. Oui. Eh ben moi je vous dirais aussi. Alors il a écrit un petit peu dans le même. Ça fait plus sérieux. Nous ignorons tous les secrets absolus. Ces problèmes jamais ne seront résolus. Il est bien question de nous derrière un voile, mais quand il tombera, nous n'existerons plus. Voilà, nous serons dans le néant.
Et lui nous fait signe qu'il nous reste encore 2 minutes avant la fin de l'émission. Donc, si vous voulez en lire un autre.
Oui, moi, je voudrais vous lire juste un petit quatrain aussi sur vraiment... Alors là, c'est la, je trouve que c'est vraiment là le poète. Hein. Le poète qui fait allusion à la légende des tulipes. La tulipe qui serait du sang d'un prince qui courait après sa dulcinée et qui est tombé sur un rocher qui a saigné. Et de ce sang est née la tulipe. Il dit donc, chaque tuliperie ici-bas, autrefois, fut sans doute arrosée avec le sang des rois. La feuille de violette, un jour, avant de naître, fut un grain de beauté sur un divin minois. Voilà.
Je crois que nous arrivons à la fin de cette émission, la 118e. La prochaine sera diffusée le deuxième samedi du mois de mai. Je crois que c'est le 8, si je ne me trompe pas, de 9h30 à 10h30. J'ai une petite pensée pour Capucine, le chat persan de ma collègue de travail Mathilde. Et je vous remercie.
Et bonjour Mathilde.
À vous tous les deux, à Marie-Claude, qui nous a fait plaisir d'être là, et à Réza, qui a finalement pu arriver à temps.
Merci.
Et bonne journée à tous.
Bonne journée à tous et bon week-end. Et merci Farida.
Et à très bientôt.
Et à très bientôt.
À bientôt.